Merci. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Je voudrais juste, avant de commencer, vous donner quelques nouvelles, parce que vous êtes habitués, j'envoie une lettre de nouvelles régulièrement, mais je manque de fidélité, je m'en excuse. Ça fait quelques temps que je n'ai pas envoyé, mais pas de bonnes nouvelles. Et là, pour le coup, l'adage est vrai. À Aix-les-Bains, nous sommes vraiment encouragés. Nous avons, vous savez, multiplié dans notre implantation d'église donc, les actions d'évangélisation et de réseautage pour apprendre à bien connaître, à connaître un maximum de monde dans la ville et pour pouvoir partager l'évangile. Et nous avons commencé donc un parcours découvert de la Bible en 6 leçons, où c'est très simple, nous montrons que Dieu a tout créé, que l'homme a tout cassé et que Dieu veut tout réparer. Et donc, au travers de ce parcours biblique, donc on fait un survol comme ça, on a des personnes qui se sont inscrites, et sur un premier groupe où il y avait 7 inscrits, à la fin de ce groupe, à la fin de ce parcours-là, il y a 2 personnes qui ont fait profession de foi, qui ont professé reconnaître Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et qui ont donc demandé à continuer d'être accompagnés. Et donc maintenant, nous cheminons avec ces personnes dans leur parcours spirituel, et nous sommes vraiment encouragés. Et puis un autre parcours va recommencer, parce qu'on a de nouveaux inscrits, les personnes veulent faire, et puis voilà, on multiplie les choses. Et donc, fin juin, le 27 juin, nous allons avoir l'inauguration officielle. Donc, nous avons le maire de la ville, la presse qui va venir, les principaux acteurs sociaux de la ville qui seront là. Et donc, nous allons avoir une inauguration un petit peu officielle pour nous faire connaître aussi au travers des médias et au travers des auprès des autorités. Et pour nous, c'était important que l'Église s'inscrive dans le contexte de la ville, soit bien identifié, et d'avoir la présence du maire avec nous aussi, c'est super, parce qu'il, quelque part, il nous légitimise, et il nous permet aussi de dire, enfin, ça nous permet de dire, nous, on veut être connus, reconnus dans cette ville-là. Nous sommes des chrétiens évangéliques, nous sommes fiers de ce que nous sommes, et nous voulons aussi nous rendre au service de la ville. Et donc, nous avons aussi donc créé une association familiale protestante, c'est une association qui nous permet de pouvoir rendre des services dans la ville, et donc on a commencé à utiliser cette association notamment pour aider et accompagner, par exemple, une jeune maman qui est divorcée, qui a 2 enfants en bas âge et qui est en détresse un petit peu sociale et pour son avenir aussi, qui se pose beaucoup de questions. Et donc, on met nos petits moyens à son service pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'aider de façon concrète pour se sortir un petit peu de sa situation précaire. Voilà, nous sommes toujours aussi encore dans la recherche d'un appartement sur Grenoble. Nous avons une piste, nous attendons une réponse d'un propriétaire. Donc c'est encore un sujet de prière. Normalement, on l'aura d'ici ce soir. Donc vous avez encore le temps de prier pour ça. Toute mon enfance a été marquée par quelque chose de très difficile, qui a été une vraie épreuve pour moi, c'est la scolarité. Et c'est vrai. Demandez à ma famille, ils savent que pour moi, l'école, c'était pire que le bagne, quoi. C'était vraiment quelque chose de très, très difficile et où j'étais en constant échec. C'est simple, j'étais constamment en échec. Et pour vous dire, j'ai gardé une dictée que j'ai toujours, où j'ai eu 1 sur 20. Je l'ai gardée parce que je n'avais pas eu 0. Et encore, pour vous dire, la dureté du professeur, il m'avait enlevé 2 points à cause des accents. Donc normalement, j'aurais peut-être pu avoir 3 s'il avait été cool. Mais bref, il m'a donné 1, il était strict, mais j'ai eu 1 sur 20. Et donc, je l'ai gardé parce que c'est le seul 1 sur 20 que j'ai eu dans toute ma vie, quoi, pour vous dire. Et c'était vraiment, pour moi, une grande souffrance quotidienne, me lever chaque matin pour aller à l'école. Et moi, le plus beau jour de l'année, ce n'était pas Noël, le Nouvel An, mon anniversaire, c'était le dernier jour de classe, quoi. Parce que arrivé 2 mois de répit pour moi, et vraiment, je sentais une liberté, mais avec au fond de l'horizon l'ombre des nuages sombres de la rentrée scolaire qui allait arriver. Donc, en profitant, bien sûr, au quotidien de ça. Et je commençais toujours avec une bonne résolution, avec un immense souhait, j'espérais que la nouvelle année serait moins dramatique que la précédente. Et donc j'espérais à commencer une nouvelle année de scolarité en ayant des bonnes notes, en essayant de faire mes devoirs, d'être assidu, d'essayer de me concentrer en classe, etc., et d'avoir au moins 2 sur 20 à la dictée. Et malheureusement, dès le 15 septembre, je baissais les bras, parce que j'étais déjà en situation d'échec. Et j'avais beau identifier ce qui n'allait pas, j'étais constamment en situation d'échec, et donc sans même plus d'espérance. Et je me suis dit, mais en fait, bon, autant subir maintenant la scolarité jusqu'à l'âge minimum, et puis enfin je sortirai de l'école, et puis on verra ce qu'il y aura après. Bon, je n'avais pas forcément d'ambition derrière ça, mais j'étais, pour moi, arrivé à un constat, c'était que je ne connaîtrais que l'échec. J'étais sur une voie de garage, et j'avais atteint le point de non-retour. Parfois, cela m'arrive aussi dans ma vie spirituelle. Je ne sais pas comment est votre parcours dans votre relation avec Christ, mais moi, de temps en temps, j'ai l'impression que je suis mais vraiment au plus bas. J'ai l'impression que j'atteins encore le point de non-retour et je retourne encore dans ce péché que j'ai confessé encore et encore et je suis abattu et je me dis, là, je ne peux plus retourner vers Christ. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas abuser de sa grâce. Je ne peux pas abuser de ce cadeau merveilleux, alors je mets du temps à me relever et à retourner vers lui. J'ai rencontré ces derniers temps pas mal aussi de frères et sœurs qui m'ont confessé se sentir sur la voie de garage, se sentir vraiment tellement loin que ce n'était pas possible de retourner vers Christ. Comment retourner? Quelle est la première étape? Comment restaurer la relation avec lui? Que devons-nous faire? On est tous, tôt ou tard, confrontés à ces situations d'échec dans notre vie, ou à un péché qui nous met à terre, et on se dit, comment retourner vers toi, Seigneur? Il y a un disciple qui a bien connu cette situation-là. C'est l'apôtre Pierre. Lui qui était toujours le premier dans la classe à lever le doigt pour donner la réponse à Jésus, lui qui était prêt à tirer l'épée pour défendre Jésus, lui qui voulait toujours être à côté, qui était le premier à ramer dans la barque probablement et à marcher devant à ses côtés, lui a connu un terrible échec juste avant le procès de Jésus. Vous le savez, il l'a renié par 3 fois. Comment revenir vers Christ après ce triple reniement? Et je vous propose qu'on lise un texte pour voir comment sa situation à lui peut nous enseigner sur notre vie spirituelle et nous encourager. Et je vous propose de prendre le texte qui se trouve dans Jean 21. Jean 21, et nous lirons les versets 15 à 22. Et je voudrais juste remettre dans son contexte, Pierre est un homme qui est brisé. Il a vu son orgueil être complètement brisé par sa faiblesse et par sa lâcheté. Il y a eu son reniement, il y a eu le procès, la condamnation de Jésus, et puis il y a eu la croix, et il y a eu la résurrection. Et Jésus retourne vers ses disciples et passe du temps, une fois qu'il est ressuscité, pour leur donner ses dernières instructions. Et nous sommes donc dans ce contexte-là, en Jean 21, et nous lisons à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Nous allons voir qu'il y a quatre gros morceaux dans la discussion. D'abord une question, en plus, ensuite, après, Jésus lui donne une mission et puis il lui fait une révélation assez particulière. Et enfin, il termine avec un appel solennel. D'abord, donc, il lui pose une question insistante. Jésus reprend là où il avait laissé Pierre, là où la situation s'était arrêtée. Pierre a renié par trois fois Jésus. Et Jésus l'avait même prophétisé. Je vous lis en Luc 22. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Hein » On reconnaît Pierre. Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois me connaître. » Jésus lui avait annoncé. Et je crois qu'il ne s'agissait pas de simplement prédire l'avenir parce que Jésus savait ce qui allait se passer, mais je crois que Jésus, dans sa pédagogie, voulait que Pierre passe par là. Parce qu'il voulait travailler quelque chose chez Pierre, il voulait briser cet orgueil que Pierre avait pour le préparer à être le berger qu'il serait. Et notez deux choses qui se passent là dans notre texte, c'est que ce n'est pas Pierre qui va vers Jésus, c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller vers Pierre. Jésus est celui qui fait le premier pas, celui qui tend la main, celui qui adresse la première question. Et deuxième chose, Jésus le fait publiquement, devant tous les autres disciples. Ils sont là en train de manger, et Jésus prend l'initiative d'engager cette conversation devant les autres disciples, pour que tous entendent. Et il le demande trois fois donc, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Alors, avant de voir ce qu'il y a derrière tout ça, il faut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question trois fois? Alors, si vous êtes fatigué et que vous avez une minute de sommeil à rattraper, c'est maintenant, ça va durer juste une minute, mais il y a une remarque importante que nous devons faire par rapport à l'interprétation de ces trois questions. Vous savez, dans le grec, peut-être vous l'avez déjà entendu, il y a trois mots différents qui sont utilisés pour dire « aimer ». Il y a « philéo », « agapao » et « eros ». Eros est en plus l'amour sentimental, philéo l'amour qu'on pourrait dire fraternel, l'amour entre des amis, et agapao la dimension de l'amour inconditionnel. D'accord ? Mais en réalité, souvent, ces mots sont interchangeables. Et on a cru que... Parce que Jésus, en fait, quand il parle à Pierre, il lui dit « Pierre, est-ce que tu m'agapao ? Donc, est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel ?» Et Pierre lui répond « Oui, je t'aime philéo. » Deuxième fois, « Est-ce que tu m'aimes agapao ?» Il lui répond « Oui, je t'aime philéo. » Et troisième fois, donc, il lui dit « Est-ce que tu m'aimes philéo ?» Et Pierre lui répond « Oui, je t'aime philéo. » Et donc, voilà, certains théologiens se sont dit « Bon, pourquoi est-ce qu'il y a cette variation de mots ? Et est-ce que ça veut dire que Jésus descend d'un cran pour demander à Pierre de l'aimer d'un amour qui ne serait pas inconditionnel et qu'il se met à son niveau, à ses capacités, parce qu'il a compris, qu'il lui fait grâce, etc. » Mais en fait, dans le grec, ces trois mots... Enfin, en tout cas, agapao et philo sont totalement interchangeables. Et il y a de nombreux travaux, voilà, je pourrais citer de nombreux théologiens, mais Don Carson, Henri Blocher, Sylvain Romerovski, voilà, tous des grands messieurs comme ça, qui ont démontré que ces mots sont complètement interchangeables, comme dans, à un moment, il emploie brebis, et l'autre fois, il emploie agneau. Mais les brebis, les agneaux ou le troupeau, c'est la même chose. Hein ? Et puis, je me souviens encore de ma prof de français qui me dit qu'il ne faut pas répéter toujours les mêmes mots, sinon c'est des fautes de français. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Mais alors pourquoi trois fois ? Pourquoi trois fois cette même question insistante ? Jésus ne lui demande pas s'il a la foi, ou s'il se repent de ce qu'il a fait, ou s'il promet de ne plus jamais recommencer le reniement, mais il lui demande trois fois s'il l'aime. Mais au fond, n'est-ce pas la question la plus fondamentale que Jésus doit poser à Pierre. m'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes ? N'est-ce pas le premier commandement que Dieu nous adresse à l'homme, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force ? Est-ce que tu m'aimes ? Et regardez, c'est à la troisième fois, regardez le verset 17, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et c'est à la troisième fois que ça vient piquer dans le cœur de Pierre au plus profond. Jésus, là, fait un parallèle entre son triple reniement et trois fois, il lui donne l'occasion de lui dire qu'il l'aime. Trois fois, il a renié, trois fois, Jésus lui donne l'occasion de lui dire qu'il l'aime. Pierre pensait que pour être un disciple, il fallait être quelqu'un de fort, qu'il fallait être quelqu'un de solide, qu'il fallait être quelqu'un qui donnait tout, qui était quelqu'un de vraiment engagé jusqu'à la mort et qui devait se montrer devant son maître comme étant l'homme le plus fort de tous, qui choisissait les élites. Moi, des fois, je crois ça aussi. Régulièrement, ça revient, cette idée-là. Et là, on voit que Pierre, malgré sa trahison, a l'occasion de dire à Jésus qu'il l'aime. Jésus donne l'occasion à celui qui l'a trahi de lui dire une nouvelle fois qu'il l'aime. Jésus me donne, quand je l'ai trahi, quand j'ai péché, quand j'ai chuté, quand je suis par terre, l'occasion de lui dire que je l'aime. Et Pierre ne peut pas déclarer son amour sans en même temps profondément regretter ce qu'il a fait. Et Jésus savait qu'il serait trahi par Pierre. Il le savait. Mais il est mort justement pour des hommes comme Pierre, comme moi, qui sont des hommes faibles, qui sont des hommes orgueilleux et qui sont des hommes qui chutent. Et Jésus, on le voit là, prend cet homme faible et lui donne l'occasion de lui dire qu'il l'aime. Parce qu'à la croix, il a payé pour ça. Il peut le restaurer. Et il donne au traître la possibilité de dire de nouveau, « Oui, je t'aime. » Imaginez un homme qui trompe sa femme, la femme est en colère, et cet homme, et que la femme donne l'occasion à son mari de lui dire qu'il l'aime. L'homme qui a chuté, qui regrette profondément, qu'est-ce qu'il souhaite ? C'est que cette relation soit restaurée et que son épouse pourrait lui dire « Écoute, oui, je te donne l'occasion de me dire que tu m'aimes et ta déclaration, à mes yeux, a de la valeur et je te pardonne. » Alors comment cette question s'applique à nous ? Comment est-ce qu'elle peut nous encourager dans notre vie ? Premièrement, c'est que Jésus ne se fait pas d'illusions sur nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faibles, que nous chutons. Et quand il nous a sauvés, quand il nous voit chuter et revenir vers lui, il n'est pas surpris de notre parcours. Il le connaît. Il en est souverain. Deuxième chose, c'est que Jésus vise toujours la restauration de son disciple. Des fois, dans sa discipline, il peut passer par le test, il peut passer par l'échec, il peut passer par lui mettre une épreuve pour le confronter, lui montrer sa faiblesse, mais dans l'objectif de restaurer son disciple. Roy Essien, un célèbre évangéliste, disait que le chrétien mature est celui qui se reconnaît faible et qui apprend à se repentir vite. Que la maturité chrétienne n'est pas la capacité de l'homme à ne pas pécher, mais à tout de suite à reconnaître quand le péché se pointe à sa porte et se rapprocher de Christ. À tout de suite, quand il a chuté, venir se mettre à genoux et demander pardon. Alors si on sent trop loin pour revenir, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que c'est Jésus encore aujourd'hui qui nous donne l'occasion et qui nous pose cette question en nous disant « Est-ce que tu m'aimes ?» Je t'autorise à répondre. « Est-ce que tu m'aimes ?» Peu importe là où nous en sommes. La grâce qui nous a été offerte à la conversion, la grâce qui nous a été accordée, le salut qui nous a été accordé, cette grâce, nous en sommes les mêmes bénéficiaires encore aujourd'hui. Et la croix est aussi importante au premier jour de notre vie que chaque jour, nous avons besoin de l'œuvre de Christ dans notre vie, de sa grâce, de son pardon, de sa totale restauration. Car il y a une chose qui ne compte pas aux yeux de Dieu, et ça, c'est quelque chose qui m'encourage énormément dans ma vie chrétienne. C'est qu'aux yeux de Dieu, mon passé ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que je fais de mon présent aujourd'hui et de comment je compte vivre mon avenir. Peu importe par où je suis passé derrière, à la croix, Christ a payé, il efface mon péché et il me permet de marcher dans une nouveauté de vie. Il me purifie et me pardonne et me permet de prendre ce nouveau départ. Deuxième chose que je note avant de passer à la suite, c'est que Jésus le restaure publiquement devant les autres. Après, on va voir, ils partent ensemble et ils marchent. Mais là, il le restaure publiquement devant tout le monde parce qu'il veut que tout le monde voit Pierre être restauré, voit Pierre être réhabilité après dans son rôle de leader et que ça passe par la croix. Et donc, je pense que c'est un enseignement aussi pour nous. Quand on voit dans l'Église un frère ou une sœur, on sait qu'il a chuté, on sait qu'il est tombé bien bas et qu'on voit une réelle repentance de le considérer à nos yeux totalement réhabilité, parce que nous sommes comme lui, nous avons été aussi réhabilités, nous en aurons besoin un jour ou l'autre. Et de permettre à ce frère et cette sœur de toujours rentrer, de poursuivre sa course dans sa vie chrétienne, et ne pas le considérer sur une voie de garage. Quand il y a repentance, il y a totale restauration, et il y a une nouveauté qui nous permet d'avancer. Et on voit donc, dans ces trois échanges de questions, Jésus fait systématiquement le lien, vous voyez, entre « est-ce que tu m'aimes ? Oui, alors paie mes brebis. » Il y a un lien entre cette restauration et puis une mission qu'il veut lui donner. Toujours, « tu m'aimes ? Alors paie mes brebis. » Et donc Jésus lui donne cette mission-là, « paie mes brebis », ça veut dire « prends soin des autres, prends soin de mes disciples, prends soin de mon Église. » Alors que Pierre l'a renié, Jésus lui confie son Église. C'est extraordinaire, hein ? Il vient de le renier et Jésus lui confie une mission très importante. Occupe-toi de mes brebis. Nous aurions choisi l'élite si nous étions à la place de Jésus. C'est une question que nous nous posons souvent. On prend bien sûr les meilleurs. Je connais quelqu'un qui est pasteur aux États-Unis. Il vient de finir son cursus et il vient d'être embauché par une église, une grosse église. Vous savez, là-bas, ce n'est pas la même taille que chez nous. Et ils étaient plus de 30 pasteurs à postuler pour rentrer dans cette église-là. Et il a eu je ne sais pas combien d'entretiens avec des écrits à rendre, et c'était comme s'il était cadre supérieur dans un grand groupe industriel, quoi. Et donc il a eu un examen théologique, il fallait qu'il justifie ses positions doctrinales, il a eu des cas d'études, on lui a dit, voilà, imaginez que dans l'église il se passe telle et telle chose, comment est-ce que vous occuperiez de cette situation, etc., comment vous gérez les réunions, enfin voilà, un nombre d'entretiens, parce que l'église voulait celui qui était le plus capable. J'ai rien, et je crois que c'est logique, quelque part, de chercher quelqu'un qui est compétent. Mais la différence entre ce que notre travail à nous et ce que fait Christ, c'est que Jésus n'appelle pas des qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. C'est la différence fondamentale. Il n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Je passe, vous savez, l'année prochaine, je serai en dernière année ici, en quatrième année, dans mon stage, et puis j'aurai un mémoire à rendre à l'Institut biblique à Genève. Et donc, pareil, j'aurai une soutenance et je devrai justifier mes positions, etc., débattre avec les professeurs. Et voilà, et ça va être quelque chose, il faut que ça soit construit théologiquement, bien fourni et tout ça. Et là, je trouve que l'examen final de Pierre, après 3 ans, il se résume en une question. Est-ce que tu m'aimes ? Parce que Jésus veut faire comprendre à Pierre que la chose la plus fondamentale pour son service, pour son ministère, c'est qu'il l'aime. C'est la source de tout service. Si on veut s'engager à servir l'Église par amour prioritairement pour l'Église, ça ne tiendra pas parce que l'Église va nous décevoir et face aux échecs, nous abandonnerons. Mais si c'est pour l'amour de Christ, alors nous tiendrons. Et Christ veut être le premier dans la vie de Pierre. Et il veut que Pierre aime son Seigneur, et du coup, en découle cette mission-là. Si tu m'aimes, alors occupe-toi des autres. Vous voulez prouver que vous m'aimez, alors obéissez à mes commandements. Et il y a toujours ce lien que l'on voit dans la parole entre le salut et les œuvres. Et souvent, on l'oublie. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. On est tous d'accord avec ça ? on est sauvé par la grâce seule de Dieu. Mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais pour des œuvres. Et les œuvres ont un rôle important, parce qu'elles sont dans le Nouveau Testament deux choses. Soit la preuve de notre salut, présentée comme étant la preuve, on est sauvé parce qu'on voit une transformation, soit comme une preuve, soit par une conséquence. Et là, on est dans la conséquence. Tu m'aimes, donc ce qui va découler, c'est le service. Parce que tu m'aimes, naturellement, tu vas vouloir me servir. Alors, quelques questions à se poser à ce sujet-là. Si on comprend que pour l'examen final de tout disciple, il y a une question à laquelle nous devons répondre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que la profondeur de notre relation avec Christ est une priorité dans notre vie ? Pour moi, c'est un combat au quotidien, parce que je veux faire beaucoup de choses pour Jésus, mais après, j'ai tendance à glisser, à vouloir le faire par moi-même, et au dépend même de ma relation avec lui. La mission qu'il lui donne, c'est de faire paître le troupeau. Ça veut dire de le nourrir, de s'occuper de lui, de l'amener là où il peut, le troupeau peut se nourrir, et puis grandir, et être en sécurité, etc. Et l'ensemble des Écritures nous montre que nous sommes tous appelés à veiller les uns sur les autres. Nous sommes tous appelés à faire paître le troupeau. Nous sommes tous responsables de la croissance spirituelle des frères et des sœurs qui sont autour de nous. D'où cette question. Est-ce que mon amour pour Christ se transforme, se manifeste, se traduit par un engagement auprès de mes frères et sœurs, un désir de les voir grandir dans leur vie spirituelle, que ce soit dans les différentes activités qu'il y a, mais aussi les frères et sœurs au sein de ma propre famille, dans mon couple, auprès de mon époux, mon épouse, mes enfants, en tant qu'enfant envers mes parents. Et dans l'Église, est-ce que mon service concourt à faire grandir spirituellement le frère et la sœur qui sont à côté de moi, avec qui je vis la vie de communauté ? Si oui, et c'est super, quelles sont les motivations ? Est-ce que c'est par amour pour Christ ou est-ce que c'est par désir d'orgueil, de pouvoir en comptant sur ses propres forces, etc. ? Et c'est l'examen de Pierre. C'est « tu m'aimes, donc va découler ce service-là ». Et personnellement, c'est quelque chose avec laquelle je bataille, et je sais que je dois sonder très régulièrement mes motivations. Et c'est souvent des bonnes motivations qui sont entremêlées de mauvaises, quoi, des fois dans mon service. En même temps, il y a de l'orgueil, et puis en même temps, il y a un vrai désir de servir. Et j'ai du mal, des fois même, à voir, alors, qu'est-ce que je fais ? Jésus me pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Et du coup, je reviens au pied de la croix, et je lui dis, oui, je t'aime, et je veux le faire par amour. Je sonde mes motivations, je les dépose au pied de la croix, et puis on continue. Notre service est le fruit, la conséquence de notre restauration. Et là, on pourrait se dire, bon, le message pourrait s'arrêter là, et ça serait très bien. Et la conversation avec Pierre aurait pu s'arrêter là, et ça aurait été très bien aussi. Mais Jésus continue la conversation, et lui dit, et lui donne une prophétie très troublante. C'est la troisième chose. Une prophétie vraiment troublante. Il lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu en ayant ainsi parlé et il lui dit, suis-moi. Dans ce texte-là, Jésus, dans ces paroles-là, Jésus veut lui expliquer par quelle mort il va glorifier Dieu. Et quand il lui parle de mains écartées et qui seront attachées, et que ce sera une mort qui glorifiera Dieu, la tradition nous assure que Pierre est mort crucifié à l'envers, à Rome, à la fin du 1er siècle. Et c'est comme ça qu'il a glorifié Dieu. L'homme qui avait renié Jésus par peur de la mort ne trouvera qu'il n'y aura aucun sacrifice à rendre pour glorifier Dieu. Il restera fidèle à Christ jusqu'à la mort. Alors, trois choses, il me semble, transpirent de cette prophétie qui est troublante et qui pourrait vraiment nous déstabiliser. Jean nous dit, première chose, pourquoi Jésus lui dit ceci ? C'est parce qu'il va glorifier Dieu. à celui qui a renié et qui a préféré son confort à la gloire de Dieu, Christ promet qu'au travers de la pire des expériences, il glorifiera Dieu. C'est du réconfort. Deuxième chose, il prévient Pierre qu'il va souffrir. Et Jésus n'a jamais épargné cette réalité à tous ses disciples. Vous voulez me suivre, vous allez souffrir. Troisième chose, il lui démontre qu'il est souverain sur sa vie, sur son ministère et sur sa mort. Par cette déclaration, il démontre au lâche qu'il tiendra grâce à lui-même. Et l'espérance de Pierre dans l'épreuve sera que Christ est souverain, que Christ connaît son avenir, qu'il est souverain sur ses épreuves et qu'il sait vers quoi il le conduit. Et on voit, je trouve, c'est troublant dans les épîtres de Pierre qui baignent dans ce climat de persécution où il écrit lui-même à des chrétiens persécutés comment cette prophétie de Christ l'a affermi. Il dit dans sa première épître, au chapitre 1, je vous cite, « Après toute une suite de recommandations aux chrétiens à tenir ferme dans la persécution, il dit « Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Cette prophétie est très importante pour lui. Il sait vers quoi il va. Et du coup, il veut prévenir aussi tous les disciples qui veulent servir Christ, vers quoi ils vont. Qu'eux aussi, ils vont connaître tôt ou tard la souffrance. Et donc, je pense que dans notre vie, c'est très important d'être au clair sur la question de la souffrance. Avoir des fondements, une connaissance qui est claire sur la souveraineté de Christ, sur la souffrance. Sinon, comme on dit, ce n'est pas pendant la bataille qu'on se prépare à faire la guerre, c'est avant. Et quand on est dans le creux de l'épreuve, ce n'est pas là qu'on peut se poser toutes ces questions, mais avant. Et c'est ce que fait Jésus, il le prépare à vivre tout ça. Et je voudrais illustrer ceci. Je suis assez cinéphile, c'est peut-être une des raisons de mon parcours scolaire. Connaissez-vous le film Shutter Island? Certains l'ont vu? J'en cite un autre, The Game. Le sixième sens, avec Bruce Willis. Ou Fight Club, avec Brad Pitt. Prometheus, un peu plus récent. Ou Incassable. Ou L'Illusionniste. Ou encore Usual Suspect. Un polar très connu qui a été vachement primé. Tous ces films sont construits sur la même trame scénaristique. C'est ce qu'on appelle un twister. Il y a une histoire, et on suit l'histoire, et à la fin du film, il y a un dénouement, en fait, qui, au-delà d'être un petit dénouement, et ce qu'on appelle un twister, c'est complètement un retournement en anglais, qui en fait nous oblige à réinterpréter tout le film. Si je vous dis la fin du sixième sens, ça ne sert à rien d'aller le voir. Je vais vous pourrir le film, quoi. Si je vous dis la fin d'Usual Suspect, vous ne pouvez plus regarder le film comme si vous ne saviez pas. Et vous savez, c'est ce genre de film, quand on l'a fini, on éteint la télé ou on sort du cinéma, on se dit, mais non, en fait, à la fin, du coup, quand il disait ça, en fait, il voulait dire ça, et te rends compte, en fait, lui, c'était lui, et en fait, c'était le coupable, mais en fait, on croit qu'on est absolument pas sûr que c'est lui, même on est convaincu du contraire, et puis un tel retournement qu'on est obligé de se refaire tout le film dans la perspective de la fin. Et connaître la perspective de la fin transforme tout le film. Vous connaissez, vous voyez de quoi je parle, ça vous est déjà arrivé, hein, rassurez-moi, d'accord. Eh bien, la vie chrétienne, c'est exactement ça, c'est un twister. Parce que nous connaissons la fin, parce que nous connaissons la souveraineté de Dieu, cela nous oblige à considérer toute notre vie, notre présent, les choses bonnes qui nous arrivent, les souffrances, notre rôle dans notre famille, au travail, à la fac, nos projets, toutes ces choses-là, dans la perspective de la souveraineté de Christ et de son retour et de la vie éternelle qui nous est promise. Et on ne peut pas vivre notre vie comme un film, comme si on ne connaissait pas la fin. Et ça, de savoir ça, cette assurance-là, transforme notre quotidien. Et je conclue avec le dernier élément du texte, c'est que Jésus lance cet appel à Pierre. Revenons au texte, regardez. Pierre, il voit Jean se rapprocher d'eux et pose la question « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Moi, tu m'as prédit la fin, je la connais, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Je voudrais savoir. » Et Jésus lui répond, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Jésus a quelque chose pour Jean, il a quelque chose pour Pierre, il a quelque chose pour Paul, il a quelque chose pour chacun de ses disciples, il a quelque chose pour moi, il a quelque chose pour chacun d'entre nous. L'appel est personnel. Et que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe les dons que lui, il a et que tu n'as pas. Toi, suis-moi. Que t'importe si eux, ils abandonnent. Toi, suis-moi. Que t'importe si tu vas souffrir. Toi, suis-moi. Que t'importe si tu ne vois pas de fruits. Toi, suis-moi. Et que t'importe si tu n'as pas ceci ou cela, toi, suis-moi. L'appel, il est entre toi et moi. Je t'appelle à mon service. Que t'importe, toi, suis-moi, parce que je suis souverain. Je connais la fin. Je te conduis. Pourquoi ? Parce que celui qui nous qualifie, c'est Christ lui-même. Ceux qui l'appellent, il les qualifie. Il les équipe. Il les accompagne. Et il les restaure. Notre réponse est personnelle à cet appel-là. Il appelle chacun de ses disciples à le suivre. Que t'importe, toi suis-moi. Comment répondons-nous à cet appel? Nous sommes restaurés, nous sommes aussi au défi de répondre à cet appel, à le suivre, à le servir. Alors si je voudrais que vous reteniez une chose ce matin, c'est que ce qui nous disqualifie, c'est notre péché, pas notre manque de dons ou la situation ou la conjoncture actuelle. Ce qui nous disqualifie dans notre service, c'est notre péché. Mais nous sommes restaurés et qualifiés par Jésus. Et nous sommes restaurés et qualifiés pour Jésus lui-même, pour sa gloire à lui. Amen. Merci.